à la Edgar Poe, un entrefilet aux X. Il est généralement admis que la sagesse nous est venue d'Orient. Monsieur va-et-vient tête carrée arrivait en droite de ligne de l'Est. Il s'ensuit donc que monsieur tête carrée était un sage. S'il faut une preuve à cette démonstration, j'ajouterai que monsieur tête carrée était directeur d'un journal et qu'il n'avait qu'un seul faible, son irascibilité. Car, à tout prendre, l'obstination dont on l'accusait n'était rien moins qu'un faible. Au contraire, M. Tête-Carré considérait assez justement que c'était là son fort, son grand côté, sa vertu. Et il aurait fallu toute la logique de Rawlinson pour lui persuader qu'il avait tort. Je viens de dire que M. Tête-Carré était un sage. Il démentit en une seule occasion son incontestable flair. Ce fut quand il quitta le domicile légal des sages, l'Est, et qu'il vint se fixer dans la ville d'Alexandro le Grandopolis, ou quelques lieux de nom analogue font du Far West. Je dois reconnaître cependant que si M. de Vetcarré s'était décidé à choisir pour demeure la ville par moi nommée, c'était dans la persuasion que le pays ne possédait ni journal ni directeur de journal. En y fondant la théière des familles, il s'attendait à voir champ libre. Je présume même qu'il n'aurait jamais songé à venir habiter Alexandre le Grandopolis s'il avait pu imaginer que cette ville vivait déjà un nommé John Smith, si ma mémoire était fidèle, qui possédait pendant de longues années, s'y était tranquillement arrondi en publiant la Gazette Alexandre le Grandonopolitain. C'est donc, trompé par des informations inexactes, que M. V. Tête-Carré se trouva un jour à Alexandre le Grandonopolis, ou pour être plus bref, à Onopolis tout court. Mais une fois là, M. Tête-Carré, désireux de ne point démériter de sa réputation de fermeté, résolut de rester. Il resta donc, il fit davantage, il déballa ses presses, ses caractères, etc., etc., et loua un bureau situé exactement en face de la Gazette. Et le troisième matin, à partir de son arrivée, il publia le premier numéro de La Théière des Familles. L'article de tête, le premier Onopolis, était, je dois l'avouer, fort belliqueux, pour ne rien dire de plus. On s'en prenait là-dedans à toute chose en général, et quant au rédacteur de la Gazette en particulier, il était mis en pièces. Quelques passages étaient si incendiaires que depuis cette époque, j'ai considéré Londres, qui vit encore, comme une sorte de salamandre. Je ne peux donner tout l'article, mais je me souviens de sa fin, qui était ainsi conçue. « Oh oui, oh, nous comprenons, oh, sans doute. Le journaliste d'en face est un génie. Oh Dieu, oh bonté divine, où va le monde? Oh tempora, oh mores !» Une satire à la fois si caustique et si classique tomba comme un obus dans la ville jusque-là dormante d'Onopolis. Les groupes agités se formèrent au coin des rues. Tout le monde attendait avec anxiété la réplique du digne Smith. Et le lendemain matin, elle parut en ces termes. Nous extrayons de la théière des familles les lignes suivantes. « Oh oui, oh, nous comprenons, oh, sans doute, où va le monde, oh Dieu, Ô bonté divine, ô tempora, ô mores. Ah ça, mais ce n'est qu'un nom, ce monsieur. Je lui explique comment il lui arrive de raisonner en cercle et de n'avoir ni commencement, ni fin, ni queue, ni tête dans ce qu'il écrit. Réellement, nous ne pouvons croire que ce sans-feu-ni-lieu puisse en faire qu'il ne soit farci d'eau. Qui sait? Il s'est accoutumé peut-être à ne vivre que d'eau et à ne fréquenter que des zéros. À propos, ce monsieur nous est venu du sud front de l'Est de façon bien soudaine. Est-ce par hasard qu'il aurait là-bas des « Il suivi de haut, tant qu'il met dans sa phrase. Oh, nous en serions bien peinés. » L'indignation de M. Tête Carrée, quand il vit cette scandaleuse élucubration, oh, je ne veux pas tenter d'en faire le tableau. Mais habile à user de distinction, il ne parut pas s'irriter, autant qu'on aurait pu le croire, des attaques entreprises contre son honorabilité. Ce furent les railleries sur son style qui le mirent hors de lui. Comment, lui, avant d'être tête carrée, ne peut pas être capable de rien écrire qui le farcit fait en nom? Oh, il serait montré bientôt à ce babouin de Smith, combien il se trompait, ce morveux. Il se faisait fort, lui, va et vient, tête carrée, de la genouillère, de montrer à John Smith que lui valait rien, tête carrée. C'était homme à composer, s'il plaisait, tout en un trophilet, qui, voit tout un article. Sur cette méprisable voyelle, l'eau figura une seule fois et non pas une. Mais, point, ce serait faire là une concession à M. Smith. Lui, va et vient d'être carré, ne ferait certainement subir aucun changement à son style pour flatter les caprices de tous les Smiths de la chrétienté. Périsse cette basse pensée, oh forever! Il maintiendrait ses hauts, il serait aussi haut alors qu'on peut l'être. Tout enflammé par cette noble détermination, le grand tête carrée fit paraître dans un numéro suivant de la théière des familles cette communication simple mais résolue. Le rédacteur de la théière des familles a l'honneur d'annoncer au rédacteur de la gazette Onopolis qu'il, enfin la théière, s'empressera de la gazette convaincre dans son de la théière numéro de demain qu'il, enfin la théière, veut et peut-être son de théière et de gazette, propre maître en fait de style. Il, la théière, entend à lui, à la gazette, montrer le suprême et flétrissant desclin dont ces de la gazette critiques remplissent son de la théière libre cœur en composant par son de la gazette, plaisir, expresse un article de quelque étendue, d'où la voyelle magnifique, l'emblème de l'éternité. Oh Dieu, ne se prendant à ça, de la gazette, sensibilité exquise, ne sera certainement pas mis au banc par son de la gazette, très humble et très obéissant serveur. Et attrape ça!
Pour accomplir la terrible menace qu'il avait ainsi obscurément indiquée, plutôt que clairement proférée, le grand va-et-vient, sourd à toutes les demandes de copie, répondant simplement, quand le metteur en scène lui disait qu'il était grand temps de donner quelque chose à composer, lui répondant, dis-je, d'aller au diable, le grand tête carrée demeura jusqu'au point du jour, consumant force huile de lampe et absorbé dans sa composition de l'inimitable entrefilet qui suit. Quoi donc, John, quoi donc, oubliez-vous qu'on vous annonça? Non, ne croissons point victoire quand nous nous trouvons encore embourbés. Votre nourrice vous suit-elle? Oh non, 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 ou alors retournez du coup chez vous, John, dans vos horribles bois de confort. Retournez à vos horribles bois, gros hibou. Nous ne voulons point. Allons, John, allons. On ne se comporte point comme cela. Retournons-nous-en, en vous disant, donc, partons du coup et point de gros mots. Personne ne vous croise à l'Ipolis. Oh, John, John, si vous ne vous en réjouissons pas, nous ne serons point considérés comme un homme, non. Nous vous disons fou, hibou, cloporte, porc, poupon, pot, sot. Bon à point de choses pour personne, bâton, rogaton, roquet, lardon, grenouille sortie de votre bout de corde. Soyons froids, soyons fous. Point de cocorico, coq, ne fronçons point nos sourcils, ne fronçons point. Point de halo, de grognon, de corasson, n'aboyons. Bonne providence, John, comme nous trouvons, outre votre rôle, n'oubliez point qu'on vous l'annonça. Or, cessons de nous tordre comme une noix au fond d'un trou. Allons, sortons et noyons notre colère dans un broc. Épuisé comme de juste, après cet effort prodigieux d'imagination, le grand tête carré en fut déduit à ne rien écrire de plus pour cette nuit-là. Fermement, posément, avec un air de grandeur consciente, il tendit son manuscrit au compositeur qui attendait, étant entré lentement chez lui, il se mit au lit avec une dignité ineffable. Cependant, le compositeur, qui tenait enfin sa copie, grimpa au premier étage à sa casse et se mit aussitôt à l'œuvre, piquant sa feuille devant lui. Tout d'abord, le premier mot était « quoi ?». Il plongea dans la caisse au Q, majuscule, et en retira heureusement la lettre choisie. Pour le petit U, il en fut de même. Réjoui par le succès, l'ouvrier se jeta immédiatement sur le casier réservé au majuscule. Mais qui pourra décrire sa terreur quand sa main ressortit sans la lettre requise? Qui peindra sa rage et son étonnement quand il s'aperçut, en se frottant le bout des doigts, qu'il les avait frappés en vain contre le fond d'un caissier vide? Il n'y avait pas le moindre O majuscule. Et quand il regarda dans le compartiment au petit O, il découvrit à son extrême effarement que celui-ci également ne contenait rien. frappé d'effroi, le compositeur de son premier mouvement courut au metteur en page. « Oh, dis donc » cria-t-il essoufflé, « jamais j'arriverai à rien composer sans eau. »« Qu'est-ce que c'est de nouveau ?» grogna le metteur en page, déjà de mauvaise humeur pour avoir été tenu en route si tard. « Eh bien, il n'y a plus d'eau dans toute l'imprimerie, ni petit ni grand. »« Quoi ? Que diable sont devenus tous ceux de la casse ?»« Ben moi, je sais pas, » dit l'autre. « Mais un de ces sacrés compositeurs de la Gazette est venu traîner par ici ce soir. Je me figure qu'il les aura raflés du premier au dernier. »« Ben, que le diable l'emporte !» « Parbleu, je n'en doute pas, » dit le metteur en page, pourpre de colère. « Mais tenez, Bob, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes un fameux luron, vous. À la première occasion, vous passerez chez eux et vous mettrez la main sur tout leur A et tout leur Z, à ces coquins. »« Compris, » dit Bob en clignant de l'œil et haussant le sourcil. « J'irai les voir. Je leur montrerai ce que nous savons faire. Mais en attendant, ce diable d'entre filet, faut qu'il passe cette nuit, vous savez. Autrement, il y aura un bruit du tonnerre. Et il fera chaud un peu, » interrompit le metteur en page avec un soupir, en accentuant un peu. « Écoutez, est-ce qu'il est long, cet entrefilet, Bob ?» « Oh, je ne dirais pas qu'il est long, » dit Bob. « Eh bien, faites pour le mieux. Il faut que nous imprimions, » dit le metteur en page, qui en avait par-dessus la tête. « Pichez-moi tout bonnement une autre lettre à la place de haut. D'abord, personne ne va s'amuser à lire les bêtises du patron. »« Très bien, » dit Bob. « On y va. » Et il partit vers sa casse en marmottant « Ça va bien. Que diable d'entrefilet. Bien drôle pour un homme qui n'a pas bu. J'en vais leur tirer l'œil à tous nos lecteurs et que le diable les emporte. Voilà l'homme pour faire ça. » Le fait est que Bob, quoiqu'il n'eût que 15 ans, n'était propre à rien que sous certains rapports. L'embarras auquel nous venons d'assister n'est nullement rare dans les imprimeries. Et quand il se produit à un contretemps pareil, on a coutume, je ne sais pourquoi, de remplacer la lettre qui manque par un X. La vraie raison, peut-être, c'est que l'X surabondant dans la caisse, ou plutôt qu'il y a surabondant, surabondait autrefois, assez longtemps pour accoutumer les compositeurs à cette substitution. Quant à Bob, il eût cru faire acte d'hérésie s'il n'avait pas employé l'X dans tous les cas de ce genre. Oh, « Faudra que je passe ce diable d'entretien aux X !» dit-il en lui-même, comme il le lisait émerveillé. « Mais c'est certainement l'entrefilet le plus plein d'eau que j'ai jamais vu. » Il le passa donc aux X sans miséricorde, et il alla à la presse. Le lendemain matin, la population d'Onopolis tomba de son haut en lisant en tête de la théière des familles les lignes suivantes. Texte illisible, mais visible. Comme une image sur la version texte. Le tumulte causé par cet entrefilet mystérieux et cabalistique ne peut être imaginé. La première idée que conçut la population fut qu'une trahison diabolique se cachait sous ces hiéroglyphes, et tous ensemble, on se précipita vers la maison de la tête carrée dans le but de lui faire un mauvais parti. Mais on ne put découvrir ce gentleman. Il avait disparu, sans que personne pût dire comment. Et depuis, on a pu même revoir son ombre. La furie populaire était privée de son objet. Elle se calma peu à peu, laissant après elle comme un résidu d'opinions contradictoires. Un monsieur pensa que toute l'affaire était une excellente plaisanterie avec un grand X. Un autre suggéra que M. de Tête Carrée avait déployé une fantaisie exubérante, X majuscule. Un troisième admit que c'était une excentricité, mais rien de plus. Un quatrième eut l'idée que le dessein du journaliste était simplement d'exprimer son exaspération. « Oh, dites plutôt de laisser un exemple à la postérité, » dit un cinquième. Il était clair pour tout le monde que M. Tête Carrée avait été poussé à quelque extrémité. Et comme on avait pu le trouver, on ne parla de rien moins que de lyncher son adversaire. Toujours est-il que la conclusion la plus commune fut que l'affaire était simplement extraordinaire et inexplicable. Le mathématicien de la ville confessa qu'il ne pouvait rien tirer d'un problème aussi obscur. L'X, tout le monde sait, est une quantité inconnue. Mais dans le cas en question, dit-il avec beaucoup d'à-propos, il y avait une quantité inconnue d'X. L'opinion de Bob, le compositeur, ne fut pas accueillie avec toute l'attention qu'elle méritait, je pense. Cependant, il exprimait ouvertement et sans réticence. Pour lui, disait-il, il n'y avait aucun doute sur toute l'affaire. La chose était bien simple. Monsieur Tête Carrée n'avait jamais pu boire comme tout le monde. On avait beau lui faire la leçon, il continuait à ne s'ingurgiter que de l'extra-stou. Et comme de juste, ça lui avait été détraqué le cerveau. Et il était devenu extrêmement extravagant.